En 2019, la part de locataires immobiliers au sein de la population belge est de 28% environ, soit 72% de propriétaires immobiliers. En fait, aujourd'hui, je vous raconterai une histoire dont le personnage principal est un propriétaire immobilier. Mon propriétaire immobilier. Il y a quelques mois, dans un élan de propriétarisme, mon propriétaire, avec une gentillesse infinie de propriétaire, m'a demandé de quitter sa propriété. Moi et mes colocataires, nous nous sommes retrouvés bien dépourvus quand l'annonce fut venue. Mais quelle est la raison, gentil propriétaire, de ce changement si incongru, dis-je. Ma propriété serait bien mieux entretenue par un couple d'ingénus. Je vous laisse donc 2 mois pour préparer leur venue. Par ces mots, il voulait dire qu'il fallait vider la cave de tout son contenu. Des années de colocation avaient rempli cette cave poussiéreuse d'objets divers et variés, ayant pour tout point commun d'être parfaitement inutile. Ce monumental amas d'objets n'étant pas de notre sort, nous avons demandé à mon propriétaire un peu d'aide. Sa gentillesse de propriétaire se révéla encore une fois infinie lorsqu'il nous promit de louer à ses frais une camionnette facilitant par là même le déménagement. Il vint donc ce jour tant attendu de vider la cave. Mais quelle surprise nous eûmes quand à l'ouverture de la porte, à la place d'une camionnette, nous tombions nez à nez avec une femme enceinte et son mari, au volant d'une Sparte, comme toute aide pour le déménagement. C'était eux, le couple ingénu, qui avaient eux aussi fait les frais de la gentillesse bienveillante de mon propriétaire. Et ils durent donc, à la place du propriétaire, déménager la cave. Malgré ma sollicitude et mon abnégation, je ressentis pour la première fois ce qu'on appelle communément de la colère. Lorsque le propriétaire arriva 1 heure en retard, je ne pourrai jamais exprimer la gratitude sempiternelle que je ressentis lorsqu'il nous proposa une canette de Nesty pour nous désaltérer. Je le questionnai alors. « Propriétaire, ne serait-ce pas votre cave dont vous êtes le propriétaire ? Par conséquent, il s'avérerait normal que ce soit vous qui la vidiez à la place d'une femme enceinte dotée d'une Smart ?» Il ne me répondit pas, mais parut, comme on le dit, énervé. Après encore une demi-heure de déménagement, nous nous retrouvâmes, seul à seul, tous les deux dans la cave. Et c'est ici que l'histoire commence vraiment, dans la poussière et la pénombre de la cave. Il me prit par l'épaule, rapprocha sa tête de mon oreille et me dit « Je suis ton propriétaire, je te hais et je vais te pourrir la vie. » Ce à quoi je lui répondis dans un élan de violence inouïe dont je ne suis pas accoutumé, « Vous êtes pathétique. » Bizarrement, ça a eu un effet étrange sur lui. Il s'est mis à gonfler, à chauffer et à éclairer la pièce. Thank you. propriétaire s'est finalement enflammé. On appelle ça une combustion spontanée. Je ne suis pas véritablement habitué à croire à ce genre d'événement invérifiable, mais ici je ne pouvais que reconnaître la réalité. Il ne restait de mon propriétaire qu'un tas de cendres. Et dans la cave, après les flammes et la colère, c'était le calme. Mais je sentais que l'atmosphère était remplie de particules. Non, pas de particules de poussière. Je sentais les particules de mon propriétaire qui se retrouvaient partout autour de moi dans la pièce. Elles se déposaient sur mes lèvres, sur mes yeux, sur mes oreilles, rentraient dans mes narines et dans ma bouche. Je sentais en réalité que les restes de mon propriétaire étaient en train de se frayer un chemin en moi, qui n'était pas tout à fait mort et que ces particules de propriétaire étaient encore en colère. Après la sidération, je pris conscience de la situation. Qu'allait-on penser ? Que je l'avais tué, puis brûlé. Je n'avais pas d'alibi et beaucoup de raisons de commettre ce meurtre. Je ne voulais surtout pas aller en prison. Paniqué, je dis au revoir à mes colocataires avec un air coupable et fuyais la maison. J'ai fui aussi la ville et je me suis retrouvé sur les chemins de la Wallonie, là où les damnés de la terre se rassemblent, là où les fuyards fuient on ne sait quoi. Sur ces chemins, je sentais en moi les particules de propriétaires qui n'étaient pas partis et qui prenaient de plus en plus de place. Je repensais à la phrase qu'il m'avait dit « Je vais te pourrir la vie ». Mon propriétaire m'avait lancé une malédiction. Je sentais que je perdais le contrôle de mes doigts de pied, puis des gestes que je faisais. En quelque sorte, je pris conscience que les particules devenaient propriétaires de mon corps. Il fallait que je trouve vite une solution, une guérison, avant que le propriétaire ne devienne complètement propriétaire de moi-même et que je ne fasse plus partie des 28% de locataires immobiliers en Belgique. En marchant et en creusant dans les circonvolutions de mon cerveau, je me souvins d'une discussion que j'avais malencontreusement interceptée dans un bar à Liège et que je n'avais pas compris à l'époque. Elle se passait entre deux personnages bien connus de la taverne, dont je suis régulièrement un buveur, Princesse et Marie-Jo. Les deux parlaient au comptoir d'un lieu qui avait permis à Marie-Jo de se débarrasser d'une malédiction lancée par un ex-compagnon. un lieu où les rencontres sont des ponts lancés au-dessus des complications de la vie. Pas loin de la ville, dans un lieu en hauteur, se trouve la maison d'un pharmacien. Dans cette petite maison qui ne paye pas de mine, se réunissent une fois par semaine des amateurs de ce qu'on appelle communément du jazz. Oh, vous confondrez sûrement ce style musical interprété notamment par Chet Baker. Non, ici jazz est orthographié D-J-A-S-E. Et les figures de proue du genre sont les renommées Jack et Pelzer. Le style est reconnaissable par ses mélodies dissonantes et tristes. J'arrivais donc un dimanche soir, évitant les voitures de police et ne passant que par des ruelles, au Jack and Pelzer Club. Un barman aux longs cheveux blancs et au visage bouffi m'offrit gratuitement du vin de Sicile sirupeux. Je m'installai au fond de la pièce sur un canapé en cuir miteux, observant le destin qui m'amènerait, j'en étais certain, la bonne personne. Bien assis au fond du canapé, j'écoutais alors, d'une oreille distraite, les hits de jazz joués par des musiciens au regard vide. Me donna un signe en la personne d'un homme d'une quarantaine d'années, en léger embonpoint. Cet homme était affublé de joues dodues et écarlates et d'un sourire possédant étrangement à la fois des relais d'une sagesse certaine et d'une profonde imbécilité. Ce sourire avait quelque chose d'effrayant et je me mis à l'observer, en oubliant tout ce qu'il y avait autour. Au bout d'un moment, je me rendis compte que le concert était fini et qu'il ne restait presque plus personne, sauf l'homme au sourire et moi. Il vint alors vers moi et me proposa de continuer la soirée chez lui, dans la maison d'à côté. Il était voisin direct du club et vivait seul dans une maison gigantesque. Il me proposa de me la faire visiter, ce que j'acceptai. Sa maison était étrangement constituée d'un alignement de pièces gigantesques, presque vides, à l'exception d'un piano à queue et de rideaux noirs recouvrant tous les murs. Curieux, je me permis d'ouvrir les rideaux pour voir ce qu'il y avait derrière. Je fus surpris lorsque je me rendis compte que derrière les rideaux se trouvait une multitude de miroirs qui recouvraient les murs de la pièce. Derrière ces miroirs, j'entendais des chuchotements, des grognements, comme quelque chose qui grouille et qui désire sortir. Je m'en éloignais avec un peu d'appréhension. L'homme me regardait toujours avec son étrange sourire. Qui me regardait toujours avec son étrange sourire, me fit signe de m'asseoir au piano. Je touchais donc les touches une par une pour voir s'il était bien accordé. Thank you. du mal à jouer du piano. Alors je retouchais les touches pour voir s'il était bien accordé, mais lorsque j'arrivais vers les touches du milieu, elles sonnèrent creux, comme si quelque chose était posé sur les cordes. Curieux, j'ouvris le piano. Je ne m'étais pas trompé. En effet, sur les cordes du milieu, était couché un petit être curieux, aux cheveux dorés. Il me dit « Qui a bien pu me réveiller comme ceci au milieu de la nuit ?»« C'est moi, et j'en suis désolé, » lui répondais-je. « Ne t'en fais pas, je vois dans ton regard que tu viens pour quelque chose de spécial, n'est-ce pas ?» En effet, mon gentil propriétaire m'a lancé une méchante malédiction et tente par tous les moyens de devenir propriétaire de mon corps. Ah, je connais cette situation. J'ai longtemps eu des propriétaires dont j'étais la propriété. J'ai une solution pour ça. Il faut devenir pleinement propriétaire de soi-même. Mais comment faire? Dites-moi. Ce n'est pas moi qui pourrais vous aider. Seul un architecte urbaniste pourra vous donner votre pleine propriété. Je ne connaissais pas ce mot architecte urbaniste, que cela pouvait-il bien dire? Comment en rencontrer un? Où se trouve-t-il? Oh, de nos jours, ils se font rares et sont très difficiles à rencontrer. Je ne peux malheureusement pas vous aider. Mais si vous le souhaitez, je peux vous faire un câlin pour vous réconforter. Volontiers, je n'en ai pas eu depuis que je me suis enfui de chez moi. Dans les petits bras de la créature, je me sentis tellement en sécurité. Et ce moment parut durer une éternité. C'est comme si cette créature comprenait ma souffrance et qu'elle n'émettait aucun jugement. Mais dans ses bras, je me mis à entendre le grouillement devenir plus fort. Les chuchotements se rapprochaient. Les miroirs s'ouvrirent un par un, laissant apparaître des centaines de petites créatures, comme celles qui dormaient dans le piano. L'homme au sourire sortit un objet étrange, hybride entre la trompette et la platine de DJ. Et toutes les créatures se tournèrent vers lui. Il dit « Cet homme est malheureux et maudit. Vous aussi, mes amis. Alors, faites la fête. »
Thank you.
Les souvenirs de cette soirée sont très flous. Je me souviens seulement de la fin, lorsque je suis sorti de la maison de l'homme au sourire et que j'ai pris le tram de Liège. Je pensais pourtant que les travaux n'étaient pas finis. Et ce soir-là, ou plutôt ce matin-là, il était voguant sur ses rails dans la ville. Je le prenais, j'étais seul dans le wagon et j'avais bu beaucoup d'alcool. Je ne savais même pas où j'allais, n'ayant plus de maison. Je m'endormais alors sur mon siège. Quelques heures ou quelques minutes plus tard, je ne sais pas, je me réveillais. Le tram était à l'arrêt. Il était dans une sorte de tunnel au mur rouge. Sur le sol, il y avait du carrelage. Et sur le carrelage, à intervalles réguliers, on pouvait voir de petites taches brunes qui ressemblaient à du café. Leur espacement semblait donner un rythme, inciter à la marche. Je sortais du tram et suivais alors les taches. Un pied sur une tache sous un pied. Progressivement, je me frayais un chemin dans ce long tunnel. Au bout d'un moment, les taches semblaient bifurquer dans une pièce vers la gauche du tunnel. Je les suivais alors. J'arrivais alors dans une pièce, remplie de cartons, de tubes, de boîtes et d'énormément de scotch. C'était comme une jungle, mais dans cet amas gigantesque d'objets, je reconnaissais certains édifices bien connus du monde entier, comme l'Atomium de Bruxelles ou le Golden Gate de San Francisco. Ils étaient en taille réduite et construits en carton, et sur leur surface on pouvait voir une sorte d'écriture cryptée, impossible à déchiffrer. J'avançais toujours dans cette jungle de carton, suivant les taches de café, lorsque je vis au milieu des objets un petit homme âgé, rond comme une boule et portant des lunettes. Il était en train de recouvrir de scotch une sorte de locomotive miniature. Il me regarda, me sourit et continua son travail concentré. Intimidé, je me rapprochai, le regardant travailler, ses mains étant très adroites avec le scotch, comme s'il avait fait ce mouvement des millions de fois. Je m'approchai encore de lui et je lui dis « C'est vous l'architecte urbaniste ?»« Oui, c'est moi, avant, architecte urbaniste. »« Vous pouvez donc m'aider à arrêter la malédiction du propriétaire ?»« Oui, maintenant. » Il fouilla dans tous ses objets en carton pour en sortir un objet étrange dont je n'arrivais pas à comprendre la fonction. Il le prit dans ses mains, le regarda attentivement et me le donna en me faisant signe de le manger. Je ne comprenais pas comment voulait-il que j'avale cet objet si gros. Je le vis alors décrocher du scotch de sa locomotive pour le manger. Je comprenais qu'il fallait que je mange le scotch qui recouvrait l'objet. Je le fis, et après quelques secondes, un violent haut-le-cœur me fit vomir une sorte de bouillie grisâtre et bouillonnante. Je reconnus dans les circonvolutions de la bouillie les traits de mon propriétaire. L'homme me dit « Le propriétaire est dangereux. Sois méchant et tue-le. » Il se mit à piétiner violemment la bouillie dans une sorte de joie communicative. J'hésitais un peu, puis je le rejoignais. À deux, nous avons réussi à tuer les propriétaires. Dans notre ville, plus de pourcentage. Seulement des locataires, ne croyant plus en la propriété. Thank you.
Je voulais vous faire écouter une musique parce qu'en fait, il n'y a pas longtemps.